Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Le témoin de ce vendredi, Jean-Pierre Perrin d'Alexandre à Daesh.
Nous avons franchi trois fois clandestinement la frontière d'Afghanistan. À chaque voyage, il a fallu parcourir des centaines de kilomètres à pied à travers la chaîne de l'Hindoukouch, le contrefort occidental de l'Himalaya, en passant des lignes de crête à plus de 5000 mètres d'altitude. Nous sommes fiers de l'avoir fait, car pour nous, le grand portage reste l'honneur du journalisme, mais aussi parce que l'histoire en valait la peine.
La région où l'utopie islamique a tracé son chemin depuis la fin du XXe siècle, c'est, curieusement, celle sur laquelle Alexandre, brièvement, au IVe siècle avant le Traire, avait tenté d'appliquer son rêve de fusion de la Grèce et de l'Asie. Les talibans d'Afghanistan n'ont évidemment que faire de la Bactriane d'Alexandre, ni les assiégés de Mossoul, des rencontres de toutes sortes qui ont pu se faire à Ninive. Mais Jean-Pierre Perrin, notre témoin à ce site singulier parmi les correspondantes de guerre, c'est qu'il tente sans cesse d'entendre l'écho de l'histoire dans les combats du présent. Et une autre de ses particularités, c'est qu'il ne cherche pas l'adrénaline du danger. Il ne faut pas regarder l'abîme trop longtemps, sinon c'est l'abîme qui vous regarde. En fait, avec le passé, c'est le chemin qui l'intéresse. Un chemin dont on ne revient jamais tout à fait. Aujourd'hui que la région est de plus en plus inaccessible et que la mémoire de l'humanité qui y est conservée se trouve terriblement menacée, il lui reste ces choses vues qu'il continue de partager de multiples façons.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean-Pierre Perrin, bonjour.
Bonjour.
Un ex de Libération, ex depuis peu de temps et à Libération si longtemps. C'est vrai que ces régions, on ne peut plus, pour beaucoup d'entre elles, y pénétrer.
Ah non, c'est incroyable parce que j'ai connu un Afghanistan où on pouvait circuler tranquillement au volant de sa 4L. Condition de dormir dans les bourgs, il n'y avait pas grand risque finalement. Il y avait quelques nomades qui essayaient de vous grappiller quelque chose, mais ça n'allait pas chercher très loin. De temps en temps, bon, des choses qui étaient plus dramatiques, mais on pouvait aller à Katmandou en voiture.
La meilleure auberge, c'était le chemin.
Oui, c'est le vieux Cervantes qui dit ça, hein, et il savait de quoi il parlait.
Vous avez un côté Don Quichotte, vous, d'ailleurs.
Je préfère que vous disiez ça que Sancho Panza, merci.
On va commencer en parlant du rêve d'Alexandre. Vous sortez d'ailleurs bientôt, au début de l'année prochaine, le djihad contre le rêve d'Alexandre. Et si vous le voulez bien, je crois que vous connaissez ce film, Oliver Stone, Alexandre, nous sommes, allez, on va dire en 330, avant notre ère, il est à la poursuite de Bessus.
Bessus, alors, c'est le satrape, hein, c'est-à-dire le gouverneur, si vous voulez, de cette province la plus à l'est de l'empire de Achéménide, qui était le plus vaste empire du monde à cette époque. Il faisait à peu près 50 fois la patrie originelle, il allait jusqu'en Égypte, il allait jusqu'aux Indes.
Et Bessus, il avait voulu reprendre...
Il a tué Darius après sa défaite par Alexandre, justement, et dans des circonstances assez mystérieuses, il l'a tué, il est devenu donc, il a pris sa place, et à ce moment-là, Alexandre lui voue une haine absolument phénoménale.
Oui, parce que le roi d'Asie, c'est lui, ça peut pas être l'autre.
Il est déjà battu, il ne peut plus rien faire, Bessus. Mais il lui vole sa victoire, et puis il entretient quand même une sorte de guérilla permanente, ce qui ne plaît pas du tout à Alexandre, donc il va le poursuivre de ses foudres et arriver jusqu'au bout.
Les géographes dirent que nous étions aux confins de l'Europe et de l'Asie. Nous étions totalement perdus. Il ne toléra l'existence d'aucun prétendant au trône de l'Empire asiatique, qui englobait désormais la Sogdiane et la Bactriane. Au printemps, Alexandre mena une armée de 150 000 hommes à travers les défilés de l'Hindoukouch. Pour pénétrer dans l'inconnu. Dans son rêve, c'était la route promise qui le mènerait à l'extrémité du monde. Nous étions devenus un empire en mouvement à des milliers de milles de la Grèce. Cuisiniers et architectes, médecins et géographes, usuriers, épouses, enfants, amants, prostituées, sans oublier les esclaves, anonymes et courbés, épines dorsales de cet animal d'un genre nouveau, enrichi ou dévasté, qu'ils y gagnent ou y perdent. Les territoires conquis ne seraient plus jamais les mêmes.
Bactriane, Sogdiane, Arachosi, il y
y a une Alexandrie, la dernière des Alexandries en Arakosi. Alors évidemment, quand vous commencez à aller en Afghanistan, Bactrian, Sogdian, vous êtes guide, souvent, et vous devez corriger les erreurs qui sont faites parfois dans les présentations communes, comme celle d'Oliver Stone.
Oui, bien sûr, il n'y avait pas 150 000 hommes, Alexandre, il y avait beaucoup moins.
50 000
Oui, 40, 50 000, et puis environ 5 500 cavaliers. Ce qui représente quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est comment se nourrissaient-ils dans les régions désertiques ou semi-désertiques de l'Afghanistan, du futur Afghanistan. Ça reste encore une énigme. L'eau, par exemple, pour nourrir tous ces chevaux. Et alors, il a oublié quelque chose dans son énumération, c'est qu'il y avait des compteurs de pas avec Alexandre. Des gens qui comptaient les pas tous les jours pour savoir à peu près combien de distance ils les accomplissaient.
Puisqu'on ne savait pas où on était très précisément.
Voilà.
Dites-moi, vous commencez à aller en Afghanistan comme guide. Il y a une certaine passion dans les années 70. Il y a des centaines de personnes en France qui partagent cette passion. Vous racontez comment vous avez fait visiter le tombeau d'Ansari. On parlera souvent des tombeaux dans cette émission. Ansari, c'est un mystique du XIe siècle. Et c'est à côté que vous êtes initié ?
Absolument. C'est une initiation rapide, fugace, simplement à une cérémonie, un dicker soufi où il consiste à rouler dans la poussière pendant un certain temps dans l'intérieur d'un milieu clos, je pense peut-être la cour d'un sanctuaire, et finalement vous avez un maître qui, à l'issue de vos culbutes sur vous-même, vous êtes désorienté, votre esprit s'égare, et là il vient, il vous relève doucement, et il appuie sur les parties de votre corps, notre colonne vertébrale, et alors c'est incroyable, mais effectivement une sorte de flash dans la tête. Alors il faut recommencer l'expérience plusieurs fois, ce que je n'ai pas fait.
Mais vous devenez de plus en plus professionnel, et puis l'Afghanistan devient une zone de tension, parce que, expliquez-vous, c'est une malédiction géopolitique.
Bah Afghanistan. Oui, c'est très mal situé finalement l'Afghanistan. C'est la porte des Indes, c'est la porte de l'Asie centrale, c'est la porte de la Perse, ça touche à la Chine. La Russie, finalement, au fur et à mesure où elle va avancer en direction des mers chaudes, n'est pas si loin, finalement. Et puis, ça entraîne évidemment des conflits entre les uns et les autres, et puis depuis Alexandre jusqu'à aujourd'hui. Alors,
nous, on va commencer simplement, si vous le voulez bien, à la fin des années 70. En 73, le roi avait été renversé par son cousin Daoud. En 1978, Daoud, à son tour, est renversé par les militaires, avec l'appui de l'URSS. L'URSS qui intervient directement en 1979. Et commence une longue guerre entre l'armée soviétique et les moudjahidines dont vous vous sentez proche. Alors ça, ce sont les dates qui sont communément connues. Et puis il y a cette date symbolique très importante pour vous qui aimez les poètes. C'est l'assassinat de Majrou en 1988, dont parle ici votre ami André Velter.
Il était seul et connaissait la menace. Jamais il n'avait laissé quelqu'un sur le seuil. Il se souvenait que chez lui, à Kaboul, à Jalalabad ou à Darinour, le devoir de l'hôte ne souffrait nulle hésitation. Il est mort, la poitrine déchiquetée, dans un geste d'accueil.
Derrière moi, la ville, dont les portes se fermeraient pour la nuit, et devant moi, le vaste, où les portes de la nuit s'ouvriraient jusqu'à l'aube. Orienté sur la contrée lointaine, je commençais. Marche incertaine, marche inconnue. Malgré la plaine obscure, en moi une lumière semblait luire. Clarté trompeuse et rassurante des mémoires, à la lueur de laquelle j'entendais et voyais au-dedans l'univers familier de sons et de couleurs. J'entendais, porté par la brise du soir, le chant plaintif du naï, et au-delà de la flûte, au-delà du berger, les tintements des grelots, les cris lointains des chiens.
L'Afghanistan, pour moi, ça a d'abord été ça. 16, 17, 18 heures de marche par jour pendant des semaines, 1000 km à pied à travers l'Hindou Kush. Sur les sentiers, un fil sombre nous guidait, c'était le sang des chevaux qui se blessaient sur les pierres.
Alors, vous avez utilisé à peu près tous les moyens de locomotion possibles. Vous parliez de la 4L, la marche à pied, le Kamaz. Ça, c'est un vieux camion soviétique dont vous dites qu'il sort des pages d'Hérodote. C'est curieux comme rapprochement.
Oui.
Le dromadaire.
Le dromadaire, c'est épouvantable. On est très mal sur un dromadaire. Moi, c'est vraiment le plus inconfortable des moyens de transport. Je sais qu'il a des passionnés, mais avec moi, on a fait très mauvais ménage avec les dromadaires. Puis ça sent extrêmement mauvais. Ça mord, c'est très méchant. Enfin, c'est épouvantable. Je vais raconter une petite anecdote. Vous savez, même avec un dromadaire, ce qu'il faut faire pour vous réconcilier avec lui, sinon il va vous rendre la vie impossible. Vous le emmenez dans un endroit désert, vous ne le battez pas. Simplement, vous vous déshabillez complètement, vous laissez vos affaires devant lui et le dromadaire va uriner sur vos affaires. Ensuite, vous allez remettre vos vêtements et à ce moment-là, vous êtes en paix avec lui, il ne vous fera plus de mal.
Vous avez dissipé le mystère. Pourquoi vous a-t-on vu une fois en caleçon sur une route afghane?
Oh, c'est un peu exagéré, en caleçon quand même. Non, il se trouve que j'ai été dépouillé effectivement par des gens du parti islamique, du Hezb islamique. Je suis tombé dans une sorte de guet-apens sur le chemin et ils n'ont pas été trop méchants. Ils m'ont simplement pris mes affaires et ils m'ont laissé avec même pas de quoi payer le taxi dans lequel j'étais. C'était en allant chercher où se cachait Massoud. Voilà, j'ai traversé un territoire hostile du côté de Kunduz. Cette histoire, cette historiette, cette anecdote me poursuit.
Il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que vous transportiez parfois de l'argent pour les moudjahidines. Alors que dans la morale du grand reporter Jean-Pierre Perrin, quand les combattants aux côtés desquels vous vous trouvez vous disent « voilà une arme », vous sortez votre calepin et votre stylo.
J'ai transporté effectivement de l'argent, mais pour des raisons humanitaires. C'est-à-dire, j'allais là, j'avais décidé d'aller là. On me disait, tu veux pas emmener un peu d'argent et le donner en passant pour ces populations qui n'ont plus rien, etc. J'aurais peut-être pas dû le faire. Je l'ai fait, je regrette rien. Et vous savez, ça m'a pas beaucoup influencé de ce que je pouvais écrire. À preuve, c'est que après, on me disait, mais t'as transporté de l'argent. Comment tu peux écrire des choses aussi négatives sur la résistance afghane? Et donc, j'ai même été interdit de panchir pendant des années parce que j'avais écrit des choses qui ne plaisaient pas au commissaire politique du parti dont dépendait Massoud à Paris.
Ah oui, ça c'est la tendance Massoud de Saint-Germain-des-Prés.
Absolument, antiquaire de Saint-Germain-des-Prés, exactement.
Majrou, dont on parlait de la mort.
Vous savez, Majrou, il a fait une chose extraordinaire. C'est qu'il a pris un jour son magnétophone, c'était déjà un vieux monsieur, et il est parti dans les camps de réfugiés. Et il a fait des interviews de femmes pachtounes. Et leurs poèmes, notamment, ce qu'on appelle les landaï. Et avec la matière qu'il a eue, on a pu savoir ce que pensaient les femmes pachtounes. Et c'est extraordinaire, parce que c'est pas du tout ce qu'on croit. Elles sont extraordinairement malheureuses. Elles sont extraordinairement dans la haine de l'homme, dans la haine de leur mari. Elles ne rêvent que d'adultère. Elles ne rêvent que, finalement, de liberté. Et c'est pas derrière la cage de la burqa ou du tchadri, on a des personnes totalement différentes qui ne sont pas du tout soumises, mais qui sont soumises contre leur gré.
Ne vous avais-je pas dit, écrit-il une fois, la tempête va venir, des mers se dresseront, creusant larmes et gouffres, et vous verrez un monstre. Pour vous, carrefour, malédiction géopolitique, l'Afghanistan, c'est aussi un lieu qui a été ravagé par des tempêtes utopiques, les unes après les autres. La nationaliste, Daoud, et puis la vague des talibans.
Oui. Et la vague communiste aussi.
Et la vague communiste que nous avons citée tout à l'heure quand je parlais de l'occupation soviétique. Alors vous publiez chez Hoébec, Jean-Pierre Perrin, un livre « Menace sur la mémoire de l'humanité ». Le mausolée de d'Ansari n'a guère été abîmé.
Un petit peu par les talibans.
Et les tombes des grands chanteurs, par exemple.
Oui, Ahmad Zaher, la tombe a été pulvérisée, c'est-à-dire il était mort depuis un moment, mais ça servait de lieu de rencontre pour les jeunes gens, garçons et filles, qui venaient un peu... les fiancés, par exemple.
C'était un donjon de la chanson.
C'était extraordinaire séducteur. Et donc, une des premières choses qu'ils ont fait lorsqu'ils ont conquis Kaboul en 1996, c'est d'aller faire exploser son tombeau.
Dans ce livre, il y a une très belle photographie du minaret de Jam. Alors ce minaret dont le décor porte quelques versets de la 19e sourate, qui n'est pas très indulgente pour les chrétiens.
Et les
pour les juifs, il devrait être préservé.
Oui,
il est menacé.
Il est menacé, mais là, il n'est pas menacé par un acte politique comme la destruction des Bouddhas. Il est menacé par les pillards. Il est menacé parce qu'on veut lui arracher des morceaux de sa céramique. On vendra ensuite très cher au bazar de Peshawar, par exemple.
Et vous dites que les talibans vivent au plus près d'une culture qu'ils veulent détruire, mais ils ne la connaissent pas, ils ne savent pas qu'elle est là.
Oui, c'est vrai. Mais alors, il y a deux niveaux, il y a trois niveaux chez les talibans. Il y a quand même des gens qui ont été éduqués, hein, comme 80%, 90% peut-être, des responsables, des cadres talibans viennent d'une madrassa très connue qui se trouve... quelques kilomètres de Peshawar, à la Madrasa Rakhanir, et qui a vraiment formé des générations de talibans. 90%, disait le porte-parole, et parmi eux, on trouve Mollah Omar, on trouve Haqqani, le chef le plus terrifiant d'aujourd'hui des réseaux, le fameux réseau Haqqani. On trouve également les assassins de Benazir Bhutto. Hein, ceux qui se sont fait sauter, qu'ils ont deux jeunes...
Premier ministre du Pakistan.
Oui, et qui allait le redevenir, d'ailleurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Pierre Perrin, notre témoin de ce vendredi, qui avant de publier chez Houellebecq ces dernières semaines Menace sur la mémoire de l'humanité, a publié nombre de romans, même des romans noirs, et un livre qui s'intitule Les Rolling Stones sont à Bagdad. Parce que quand vous êtes longuement à Bagdad à la veille et pendant la deuxième guerre du Golfe en 2003... Votre chauffeur dispose d'un répertoire assez peu varié et vous écoutez avec lui, ensemble encore, les Stones.
Ah oui, oui, absolument. On monte dans la voiture, en même temps les Stones démarrent, en même temps que la voiture. Ce qui finalement nous fait oublier un peu la guerre, les menaces diverses. Les Rolling Stones nous transportent. Finalement, c'est une sorte de catharsis. Ça compense un petit peu le fracas de la guerre par quelque chose d'autre. Et à tel point que quand je laisserai ce chauffeur, pour lequel j'avais une énorme sympathie, pour rentrer en France, il accompagnera d'autres journalistes, et ils se verront imposer aussi les Stones. En fait, c'est nous qui lui avions apporté la cassette qu'on avait trouvée dans les souks de Bagdad, mais lui aussi s'était mis à adorer les Stones, et donc on a peut-être vraiment gêné des générations de journalistes, puisqu'il n'a jamais réussi à oublier les Stones.
Mais vous aimez les choses vues, et aussi les choses entendues, vous prêtez beaucoup d'attention d'ailleurs à ce que la musique permet de dire, alors qu'on n'a pas de langue commune. Votre chauffeur, il sait dire « very boom boom » quand il y a des bombardements à Bagdad. Quand vous étiez, on revient un instant en Afghanistan, chez les hommes du commandant Massoud, vous écoutiez ensemble des chansons d'extrême-gauche iranienne, parce qu'il y avait que ça dans le magnétophone qu'on pouvait mettre.
Oui, enfin simplement, Massoud avait une énorme admiration pour Roméni, et donc à l'époque, ce genre de groupe, vous savez, dans l'Iran révolutionnaire qui a succédé à la chute du Shah, l'extrême gauche était assez présente. Il y a eu une entente entre les islamistes et l'extrême gauche. Et ça, ce groupe révolutionnaire, vous pouviez l'entendre sur les ondes de Radio Téhéran, Radio Roméniste. Pour le moment, il y avait une sorte de pluralité qui ensuite, avec la technique bien connue du saucissonnage, tous les groupes de gauche, le Parti communiste, d'extrême gauche, les laïcs, tout ça, ont tous été éliminés. Il n'est plus resté que les islamistes. Donc, c'était une musique, moi, j'avais entendu beaucoup à Téhéran, que j'ai reconnu donc quand elle a été diffusée sur le petit magnétophone de Massoud.
Revenons à Bagdad, ou plus précisément, non loin, à Babylone, où le dictateur irakien a entrepris de grands travaux que la télévision, à l'époque de Roger Jiquel, 1977, admirait beaucoup.
Investir le pétrole dans l'Antiquité pour le tourisme dans 10 ans ou plus, quelle bonne idée! Et c'est celle d'un pays dont on connaît mal une action pourtant spectaculaire, ressusciter tout simplement le berceau de la civilisation, l'antique Mésopotamie. Raymond Barre, qui revient d'un voyage en Irak, s'est intéressé à l'avenir de ce pays, à la coopération technique et aux grands équipements, pour l'horizon de l'an 2000. Mais ce qui est extraordinaire en Irak, ce sont ces investissements fabuleux pour restaurer les joyaux du désert il y a 4000 ans. Babylone, par exemple, la cité de rêve avec ses jardins suspendus, renaît aujourd'hui de ses ruines. Jean Vidal revient de Babylone.
Les architectes se sont donné 20 ans pour mener la restauration à son terme. L'entreprise s'inscrit sur la liste des grands travaux du XXe siècle, au même titre que la sauvegarde des temples de Nubie.
Quelle est la ville de Babylone que vous allez reconstruire maintenant, la plus ancienne ou celle qui date de 600 ans avant Jésus-Christ ?
En réalité, la plus facile, ce que nous allons reconstruire, c'est la plus nouvelle, c'est la ville qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ.
Les jardins suspendus de la reine Sémiramis, qui furent l'une des sept merveilles du monde, ont été consolidés à leur base avant leur restauration prochaine. Deux années se sont écoulées entre la vue des ruines du grand amphithéâtre grec de Babylone et la fin des travaux.
Alors dans votre livre, Jean-Pierre Perrin, il y a des photographies du Babylone de Saddam Hussein. C'est menacé, ça, aujourd'hui ?
Non, c'est menacé, c'est déjà plus le c'est un Babylone, vous savez, ce que disait Michelet, des ruines. Hein. Il faut qu'on sente la sève et la vie circuler. La pierre n'est pas que la pierre, mais elle était spiritualisée par l'artiste. Alors à Babylone, on n'a pas du tout cette impression que la pierre a été spiritualisée par l'artiste. Au contraire, on a une sorte de décor kitschissime, avec en plus, sur une colline qui surplombe Babylone, il a fait construire un palais, un de plus, parce qu'il y en avait des dizaines et des dizaines, et donc après c'est devenu en plus une base américaine, enfin tout s'est conjugué pour faire de Babylone quelque chose de pas très agréable à regarder, mais enfin ça le mérite quand même d'être là, alors on va pas être trop
de
sévère.
De témoigner d'une strate,
il avait mis des briques à son nom dans les murailles de la ville.
Alors quand la guerre aboutit très rapidement à la victoire des Américains, il y a pillage de Bagdad en 2003. J'ai une attirance pour les lieux du crime.
Oui, oui, absolument. Mais j'ai vu par exemple la fameuse prison d'Abu Ghraib, totalement pillée. Et effectivement, j'ai vu quelque chose d'une sorte de revanche à ce moment-là de ceux qui ont souffert, ou des familles de ceux qui ont souffert, ou même peut-être des simples passants. C'est quelque chose de sentir que le lieu où le crime a eu lieu, oui. Parce que c'est à ce moment-là qu'on prend conscience, finalement, de la tragédie. C'est à ce moment-là qu'on prend conscience de ce côté épouvantail que fut ce régime.
Mais vous allez peut-être me démentir, vous écriviez aussi « C'est un pays, au fond, où j'aime bien retourner parce que ça ressemble au parrain de Coppola et j'aime bien cette série ».
Oui, une simple anecdote, il y avait ce personnage qu'on n'oserait même pas imaginer dans un roman policier, qui est Uday, le fils de Saddam, qui avait une telle collection de voitures de luxe, absolument invraisemblable, ce n'est des hangars entiers, et une fois qu'il avait tué le garde du corps de son père à coups de batte, de baseball, eh bien son père, pour le punir, on lui avait d'abord un peu fait frapper, et puis il est allé dans le hangar, il a mis le feu à des centaines de voitures de luxe, Rolls-Royce, Mercedes, Porsche, etc.
Et en même temps, fallait-il déclencher cette guerre ? Vous vous souvenez, puisque vous aimez le cinéma, du film Quai d'Orsay, où Dominique de Villepin est présenté avec son cabinet en train de préparer le fameux discours préparatoire au Conseil de sécurité où la France a dit son dissentiment avec les États-Unis.
Et comment est-ce qu'il faut qu'on vous le dise ? En morse ? En sémaphore ? En araméen ? C'est pas un discours que je veux ! C'est du vol d'oiseau direct. Pas de phrases, vous faites des phrases. Pas de lyrisme. Des mots, des principes, des faits. On parle devant le Conseil de sécurité. On parle au monde.
Bon, on a le temps. On va pouvoir tout réécrire.
Voilà. Alors voyez-vous, ce qui me gêne, c'est une vision un peu... Pardon, merci. Une vision un peu rapide de l'Amérique, mais...
Les Américains, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que je les aime. Et la vérité, c'est que je les aime même plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes. Eux, ils ne savent pas s'aimer. Regardez comment ils vivent. Il y en a un tiers qui bouffe dans leur voiture. Notez, Arthur, c'est ça qu'il faut dire.
Mais, monsieur le ministre, ça n'est pas le sujet du discours. Vous me l'avez dit vous-même. On s'adresse aux 191 États membres de l'ONU sur des sujets spécifiques. Le Louzdémistan, les menaces de guerre.
Et précisément, ce discours, il faut qu'il ait du cœur au travers d'une histoire, au travers d'une anecdote, et tout d'un coup, paf ! On leur dit qu'on ne marche pas dans leur combine, que jamais la France ne se compromettra dans les arnaques de quelques républicains tordus.
Alors à l'époque, évidemment, vous étiez à Libération, vous deviez avoir un esprit critique constamment aiguisé, Jean-Pierre Perrin. Vous aviez tendance à écrire « Moi, j'achète pas ce discours de la France ».
Oui, je vais un peu changer d'avis depuis, je trouve que c'est un discours plutôt brillant, finalement. Non, ce qui me gênait, moi, avec la politique française, c'est qu'elle était totalement... Elle mangeait dans la main de Saddam Hussein par bien des côtés. On s'est comporté quand même avec ce régime d'une manière, je trouve, épouvantable. On lui a fourni des avions pour bombarder l'Iran, alors que c'était lui l'agresseur. On a vraiment saboté toutes nos chances dans la région en le soutenant d'une façon excessive au détriment des Iraniens. Non pas que l'Iran n'ait rien à se reprocher, bien évidemment, mais je pensais qu'il fallait avoir une politique beaucoup plus équilibrée qu'on a eue. Le prix à payer fut très très cher.
Et si on fait un petit focus sur deux ou trois monuments qui vous étaient chers en Irak? À Mossoul, il y avait les ruines de Ninive. Le site archéologique est à proximité de la ville
en
de
face,
Mossoul.
Oui, tout à fait. Mais alors aussi de Ninive, là je préfère encore le tombeau de Jonas. Tombeau de Jonas, puisqu'il est revendiqué à la fois par les chrétiens, les juifs et les musulmans. Alors... pas facile d'y aller, parce que quand même, déjà à l'époque, une sorte d'islamisme latent sévissait dans la ville, et on m'a interdit d'y entrer.
Vous dites que c'est depuis 1980 qu'à Mossoul, cette tendance monte lentement.
Absolument, il y a le premier pogrom anti-chrétien se passe sous Saddam, peu avant le début de la guerre, où des chrétiens sont à des jeunes filles chrétiennes, on essaye de les kidnapper au moment de leur communion, par des groupes déjà salafistes. Et donc, pour revenir à ce tombeau de Jonas, évidemment, il était réduit à un tas de cailloux par l'État islamique, et donc c'est quand même patriarche revendiqué par les trois religions, c'est pas si fréquent.
Et si on parlait pour finir d'Ézéchiel, le prophète, vous vous souvenez peut-être du livre d'Ézéchiel dans la Bible, « La main de Yahvé fut sur moi et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements complètement desséchés, et Yahvé me dit « Prophétise !» sur ces ossements. C'est non loin d'Hila, je crois, la ville où vous êtes allé pendant le conflit de 2003.
Oui, il y a le tombeau d'Ézéchiel, absolument. Extraordinaire petit endroit où pour les mystiques, pour les soufis, pas du tout pour le clergé régulier chiite ou sunnite. Hein. L'endroit est plutôt chiite par ailleurs. Mais c'est un endroit extrêmement émouvant. On m'avait dit qu'à l'époque, il y avait encore un juif dans la commune, dans le village, mais qui était très âgé. On m'a déconseillé d'aller le voir, donc je ne suis pas allé le voir. Et puis, il y avait la présence d'Al-Khizr, qui est un peu le prophète vert, qui est un personnage énigmatique, anté-islamique, qui permet de trouver le cir, qui est l'eau éternelle, l'eau de jouvence, l'eau de l'éternelle jeunesse, avec aussi associé aussi au mythe du retour, et qui aussi nous ramène à Alexandre.
Pourquoi? Alexandre.
Parce qu'Alexandre, dans la poésie mystique persane, est aussi l'homme qui recherche Al-Khizr, et qui recherche aussi l'eau, le cir, l'eau éternelle.
Et puis, Alexandre disait que l'art de la guerre supposait aussi de la faire avec une bibliothèque. C'est un peu votre cas, Jean-Pierre Perrin.
Non, moi...
D'abord, vous allez dire que vous ne faites pas la guerre, mais vous concevez le reportage de guerre comme devant être adossé à une bibliothèque.
Un peu, oui, il faut savoir un petit peu où on va. Finalement, on va sur un territoire de l'autre, donc il faut connaître un petit peu la culture de l'autre. Alors, non, Alexandre, lui, lisait l'Iliade tous les soirs, hein, et puis il lisait Hérodote également. Hérodote qui raconte beaucoup de choses sur la région, même s'il n'y est jamais allé. Vous savez, il y avait des noms incroyables, des noms qu'on trouve chez Hérodote. Par exemple, c'est quasiment les mêmes noms aujourd'hui. Hein. C'est le nom de tribu, par exemple. C'est lui le premier qui parle des Afridis, par exemple, qui défendent une partie de l'île de Kouch et l'école de l'île de Kouch.
Les noms n'ont pas changé et les camions non plus depuis l'époque d'Hérodote. C'est la conclusion, Jean-Pierre Perrin. Les menaces sur la mémoire de l'humanité, votre dernier livre chez Hoébec. L'émission a été préparée par Frédéric Martin avec à la réalisation Valérie Estaraille et à la technique Hélène Langlois.